heureusement, dans les cas les plus durs, il y a quand même des personnes qui vont résister. Il y a quand même des personnes qui vont être solidaires. Il y a des gens qui se révèlent être des héros ordinaires. Ces histoires-là, c'est celles que j'aime raconter parce que c'est celles qui nous donnent foi justement en l'humanité et qui permettent les jours où vraiment on va se retrouver dans des situations dramatiques, où on va découvrir les horreurs que les conflits peuvent engendrer. Bon, il reste toujours cette petite lumière au fond du tunnel et moi j'essaye de m'y raccrocher quand je le peux.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Femmes de défi, le podcast pour cultiver l'audace. Je m'appelle Léa Lucas, je suis journaliste pour le magazine Courrier Cadre et toutes les deux semaines, j'ai le plaisir d'échanger avec des femmes courageuses, combatives, qui sont devenues des leaders dans de nombreux domaines, en dépit des obstacles. La femme que je reçois aujourd'hui est l'une des figures de proue de France 2. Elle a couvert les plus grands événements internationaux des 25 dernières années. Iran, Irak, Syrie, elle y était. Dernièrement, c'est en Ukraine et en Israël qu'elle part régulièrement en mission, toujours avec la volonté d'informer, d'être témoin de l'histoire qui se déroule sous ses yeux, mais toujours au péril de sa vie. Stéphanie Pérez, reporter de guerre, est mon invitée. Cette journaliste aguerrie est aussi l'autrice du livre « Le gardien de Téhéran » paru aux éditions Récamier. Afin de protéger ses sources iraniennes, elle a fait le choix de s'inspirer de la réalité, des situations vécues, des rencontres qui l'ont profondément marquée, mais d'en faire un roman fictionnel et elle ne s'attendait pas à ce que l'écriture devienne salutaire, au point d'en écrire un second sur le conflit en Ukraine. Alors avant d'évoquer avec elle la nécessité d'écrire pour se souvenir, ce métier à haut risque était-il un rêve? Comment appréhende-t-elle désormais la peur, le danger, même quand elle frôle la mort? Et comment préserve-t-elle ses proches de l'inquiétude? C'est parti, saison 1, épisode 3. Bonjour Stéphanie Pérez.
Bonjour.
Merci de nous recevoir à France Télévisions. Avant de revenir sur vos missions les plus récentes que je viens d'évoquer, est-ce que devenir reporter de guerre, c'était un rêve ou est-ce que ça a plus été une opportunité sur le tard? Et est-ce que vous vous souvenez des sensations qui ont accompagné votre premier départ en mission?
J'ai toujours voulu être reporter, parce que reporter de guerre, c'est venu après. Mais moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est voyager, découvrir le monde, rencontrer des gens de tous horizons, comprendre le monde qui nous entoure, être témoin de l'histoire en marche. Et c'est vrai qu'au fil de ma carrière, je me suis du coup retrouvée à couvrir des conflits. Et c'est vrai que pour moi, c'est de plus en plus passionnant parce que ce sont des situations qui sont extrêmes, où on rencontre ce qu'il y a de beau dans l'humanité. Il y a la solidarité, le courage, l'héroïsme, mais on rencontre aussi ce qu'il y a de pire, la mort, la torture, la violence sous toutes ses formes. Et moi, j'ai encore besoin de décrypter, d'essayer de comprendre et d'aider les autres à décrypter le monde qui nous entoure. Donc vraiment, j'ai franchi les étapes au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, j'y prends énormément de plaisir parce que c'est vraiment une passion. Et mes premières sensations, non, à vrai dire, je ne m'en rappelle plus parce que j'en ai fait beaucoup des reportages.
La toute première peut être un peu marquante.
Chaque départ en mission est particulier, en fait, notamment quand on part sur des missions de conflit. Quand je pars en Ukraine, que je me retrouve dans le taxi et que j'ai fermé la porte de chez moi, il y a toujours un petit pincement. Il y a toujours une petite appréhension de se dire « bon, je ferme la porte et j'espère que je reviendrai. »
Je vais la réouvrir.
J'espère que je reviendrai. J'espère que la famille que je laisse derrière moi, je la retrouverai sans problème. Donc il y a toujours ce petit moment-là. Et en fait, c'est plus ces moments-là qui me marquent davantage à la limite. C'est parce qu'après, une fois qu'on est dans l'avion, une fois qu'on est sur le terrain avec les collègues, allez, on est lancé, on se laisse porter par l'actualité. On doit envoyer nos sujets à l'heure, on doit trouver des histoires. Donc après, on est dans une spirale et on fait le job.
Je voulais évoquer avec vous un livre qui s'appelle « Elles risquent leur vie », publié chez Talendier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais 5 femmes reporters de guerre témoignent, dont l'une des pionnières, Patricia Alémonière. Et elle parle de la peur à l'approche d'un départ, justement. Alors, je la cite. « La peur m'a parfois fait ressentir l'urgence d'organiser la vie d'après, la vie sans moi. Alors, il m'est arrivé d'écrire de longues lettres à mes proches. Elles n'étaient jamais envoyées, jamais lues. Je les laissais dans un coin de mon appartement, au cas où. » Alors, est-ce que vous aussi, vous avez des petits rituels avant de fermer cette porte dont vous parliez? Ou est-ce que finalement, comme vous dites, la peur vous quitte une fois que l'action est lancée et que vous êtes sur le terrain?
Alors, la peur ne me quitte pas, parce que je pense qu'il faut avoir peur quand même. Il ne faut pas l'oublier, cette peur, parce qu'autrement, on fait n'importe quoi. La peur, moi, elle est tapie quelque part, dans un coin de ma tête. C'est une vigie et j'essaye d'affranchir la ligne rouge. Donc, elle est toujours là. Après, en ce qui concerne la famille, moi, je parle très peu, finalement, de ce que je fais. J'ai un garçon qui a 17 ans. Il ne me pose pas beaucoup de questions et je ne lui donne pas de détails sur là où je vais, ce que je fais, les expériences que je vis. Il n'est pas particulièrement volontaire pour regarder mes reportages et je ne le pousse pas forcément à regarder mes reportages, quelque part, je pense, pour le préserver. Parce que le problème, c'est que souvent, les gens qui restent à Paris, en France, n'ont pas la même vision du reportage que moi qui suis sur place. Donc forcément, ça fait beaucoup plus peur. Je me rappelle quand je suis partie la première fois en Ukraine, au tout début du conflit, c'était très très compliqué à vivre pour mes proches qui ne travaillent pas à la télévision parce qu'ils avaient l'impression que j'allais me jeter dans la gueule du loup. À ce moment-là, on parlait de l'Ukraine tous les jours à la télévision, c'était extrêmement anxiogène, il y avait ces images qui arrivaient de partout et moi, mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Mon fils était extrêmement anxieux, j'ai eu des messages de professeurs qui m'ont dit « Mais où est-ce que vous êtes ? Votre fils est extrêmement crispé. » Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à gérer pour eux qui ne savent pas que pour nous qui sommes sur place, qui appréhendons le danger du mieux possible. Et puis, nous, c'est notre choix. Moi, c'est mon choix à moi d'aller là-bas, c'est ma passion, mais eux ne l'ont pas choisi. Et c'est vrai que quand je reviens, je parle très peu de ce que j'ai fait, je ne donne pas de détails. Si on me pose des questions, je réponds, mais moi, quand je reviens, pour le coup, là, je referme la porte. Et je m'occupe des devoirs, on va faire les courses, on va au ciné, au théâtre.
Que du plaisir.
Mmh. Et voilà, on va rendre la vie encore plus belle parce que j'ai vu ce qui était très sombre dans l'humanité. Et quand je reviens, j'ai envie d'en profiter au maximum et j'ai envie que les gens autour de moi en profitent. Donc je les préserve en fait.
Le terrain, j'aimerais en parler. Le fait d'être une femme peut être un atout ou pas. Selon un autre des témoignages d'une reporter de guerre dans le livre « Elles risquent leur vie », cette fois-ci c'est Anne-Claire Coudray, ancienne reporter de guerre et présentatrice à TF1, qui écrit, je la cite à nouveau, « J'ai choisi de partir en équipe mixte. Être une femme m'a souvent ouvert les portes en désamorçant certaines méfiances, mais cela peut à l'inverse déclencher beaucoup d'agressivité chez certaines personnes. Dans ce cas-là, mes collègues hommes prennent le relais. Dans certaines sociétés, les hommes ont du mal à comprendre qu'une femme puisse prendre des décisions, avoir de l'autorité. » Nous nous en arrangeons. Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat ? Et est-ce que vous aussi, vous faites avec ?
Oh oui, moi, je m'en arrange et je m'en suis toujours arrangée. Et comme le dit Anne-Claire, moi, je pense que c'est plutôt un atout. Alors, de la même façon, je suis très souvent partie en équipe mixte. En Ukraine, on part souvent à deux filles, moi, rédactrice, et elle à la caméra, plus un monteur homme, généralement. Et moi, j'ai remarqué que jusqu'à présent, effectivement, c'est plutôt un atout parce que quand on va essayer d'obtenir des témoignages qui peuvent être difficiles, des témoignages douloureux, ça peut être un avantage d'être une femme. Je pense en Ukraine, si vous vous retrouvez face à des femmes qui ont été violées, vous vous retrouvez face à des mères de famille qui sont extrêmement stressées, qui se sont cachées, qui se sont exilées. Donc ce sont des choses très personnelles et souvent être une femme, ça permet de se comprendre davantage. En tous les cas, de leur point de vue à elles, elles vont se confier plus facilement à une femme. Souvent, ça peut aussi servir parce que parfois, on peut nous prendre, et on en sourit souvent avec mon amie Chloé Cormery qui m'accompagne souvent. Souvent, on nous prend pour des blondes. Et quelque part, c'est pas, moi, ça me déplaît pas qu'on me prenne pour une blonde parce que je peux poser mes questions, on ne me prend pas au sérieux, mais ça ne m'empêche pas de les poser, mes questions. Et quelque part, il ne va pas y avoir forcément la même méfiance que si c'est un interlocuteur homme qui pose la question. Donc moi, je joue bien volontiers de ce côté-là. Après, c'est vrai que dans certains pays, je pense à l'Iran notamment, quand vous vous retrouvez face à des religieux qui estiment que ce n'est pas la place de la femme d'être là et de leur poser des questions. Moi, ça m'est arrivé. Généralement, ils répondaient au caméraman, qui était là un homme, ou au traducteur, mais pas à moi. Moi, je n'existais pas. Mais bon, je ne me démonte pas, je pose mes questions. Il répond. Et s'il ne me répond pas, j'insiste. Ça l'agace, mais je continue. Donc, Effectivement, il y a un moment, il faut savoir que voilà, faut juste accepter que dans certains pays, c'est pas très voilà, la place des femmes n'est pas la nôtre, n'est pas celle qu'on occupe. Faut juste l'admettre et puis essayer d'en jouer et puis s'effacer quand on sent que vraiment vaut mieux la jouer profil bas. C'est sûr que dans ces cas-là, vaut mieux se mettre un peu en retrait et puis laisser s'avancer les hommes de l'équipe. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des équipes mixtes parce qu'on peut se partager les rôles.
Et depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, que vous couvrez depuis le début, hein, donc depuis février 2022, comment vous arrivez à supporter l'horreur dont vous parliez lorsque vous y êtes, hein, lorsque vous êtes sur le terrain, et à garder foi en l'humanité ?
Heureusement qu'on se retrouve dans des situations où on peut aussi mettre en avant l'héroïsme, le courage, la solidarité. Et moi, dans ces moments-là, je me dis, bon, allez, tout n'est pas perdu. Heureusement, dans les cas les plus durs, il y a quand même des personnes qui vont résister, il y a quand même des personnes qui vont être solidaires, il y a des gens qui se révèlent être des héros ordinaires alors que rien ne les prédestinait. Je me rappelle les premiers temps quand on passait les nuits dans les caves des immeubles. Je me rappelle avoir rencontré notamment un patron de station-service en Ukraine, dans la région d'Odessa. Ce gars, il était gérant de station-service, rien ne le destinait à être un héros. Et en fait, il a sauvé plein de gens en les protégeant, en les mettant à l'abri, en les prenant en charge, en les consolant. Et aujourd'hui, il s'est converti dans l'humanitaire. Et rien ne le prédestinait à devenir ce petit héros du quotidien. Et moi, ces histoires-là, c'est celles que j'aime raconter parce que c'est celles qui nous donnent foi justement en l'humanité et qui permettent les jours où vraiment on va se retrouver dans des situations dramatique, où on va découvrir les horreurs que les conflits peuvent engendrer. Bon, il reste toujours cette petite lumière au fond du tunnel et moi, j'essaye de m'y raccrocher quand je le peux.
Et sur le sol ukrainien, toujours, vous avez raconté dans un média que vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises, passé juste à côté d'un bombardement avant de vite partir. Au regard de votre expérience actuelle, est-ce que vous pensez faire preuve de courage ou faut-il toujours une part d'insouciance pour justement aller sur ces terrains-là ?
Moi, je ne m'estime pas courageuse. Je pense que les soldats qui combattent sont des gens courageux parce que véritablement, ils se battent pour leur pays et ils risquent vraiment leur vie au quotidien. Nous, on s'en approche un petit peu du danger, mais ce n'est pas mon travail. Et moi, je rentre normalement, je n'y reste que peu de temps, je n'y consacre pas ma vie. Donc non, je ne me sens pas courageuse. Et non, c'est pas de l'insouciance parce que on a conscience du danger. Moi, quand je me retrouve pas très loin de la ligne de front, que tout autour les obus explosent ou qu'on sent, qu'on entend un sifflement qui indique que attention, la frappe, ça va tomber pas loin. Dans ces moments-là, j'ai des moments de grande lucidité. Je sais où je suis. Je vais essayer d'appréhender le moment le plus calmement possible. Et surtout, je vais essayer de ne pas jouer trop avec le feu non plus. C'est-à-dire que ça m'est effectivement arrivé à plusieurs reprises de vraiment frôler la catastrophe. Bon, le lendemain, j'y retourne pas. Parce que faut quand même pas trop jouer avec sa chance. J'ai une bonne étoile, je veux pas la perdre. Donc, non, je... C'est pas de l'insouciance. Après, il faut bien se mettre dans l'idée que tout ce qui nous anime, nous qui allons sur ces terrains-là, c'est avant tout la volonté d'informer. Parce que si on n'y va pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et on peut après lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a toutes ces théories complotistes qui peuvent circuler. Donc moi, j'estime que vraiment, il faut y aller. Il faut aller témoigner parce que je sais ce que je vois, je sais ce que j'ai vu et je sais ce dont je parle. Et je sais que notre témoignage peut être précieux. Et c'est plus ça qui l'emporte sur le reste, finalement.
Pour appréhender au mieux le retour de ces missions. Alors, je le disais, vous avez pris goût à l'écriture. Vous rédigez actuellement votre second roman. Dans une publication sur Instagram, vous avez indiqué qu'il abordera de nouveau l'importance de l'art pour combattre l'obscurité. C'était l'objet de votre premier roman. Mais cette fois-ci, il va se passer en Ukraine. Que voulez-vous cette fois-ci faire raconter à vos personnages ? Est-ce que c'est une manière pour vous de ne pas oublier ces rencontres, puisque vos personnages s'inspirent quand même de vos rencontres sur le terrain ?
C'est une façon de prolonger effectivement ce travail qu'on accomplit depuis 2 ans en Ukraine particulièrement. C'est aussi une façon un peu plus intime aussi de l'aborder parce que Comme je disais, on fait des rencontres qui sont très fortes. Moi, je m'interroge beaucoup sur comment je réagirais si mon pays était envahi. Est-ce que je résisterais? Est-ce que je partirais pas en courant? Est-ce que je pourrais faire preuve d'autant de solidarité que certains Ukrainiens en ce moment? Donc, c'est toutes ces questions-là que j'essaye de poser par écrit dans ce livre que je suis en train d'écrire et qui rassemble aussi mes personnages, sont la somme un peu de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Parce que c'est aussi une façon de leur rendre hommage. Et puis, c'est aussi une façon de continuer à m'interroger sur ce qu'ils nous transmettent comme message. Et puis, comme je suis fondamentalement quand même quelqu'un d'assez optimiste, j'ai envie, dans mes histoires, de garder toujours un peu d'espoir. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion de rechercher toujours la lumière dans l'obscurité. Et c'est vrai que pour l'avoir vu, que ce soit en Iran et là en Ukraine, pour beaucoup, l'art joue un rôle primordial pour justement garder un peu d'espoir, pour continuer à chercher un peu de lumière et puis un peu de beau dans tout cet océan très très sombre.
Les moments vécus sont extrêmement intenses et en fait quand on rentre en France, ça l'est peut-être un peu moins. Vous n'en parlez pas en plus forcément à vos proches, donc ça peut aussi générer un sentiment de solitude.
Il y a toujours un sas quand on rentre, le moment de revenir dans la vraie vie, mais moi je me sens pas seule parce que j'aime bien justement assez vite passer à autre chose, comme je disais, voilà, aller faire les courses, les devoirs. Alors il y a 48 heures qui sont un petit peu dures à gérer, où on dort beaucoup, voilà, faut retrouver ses marques, faire les lessives, bon c'est pas très passionnant. Mais justement le fait d'avoir une famille permet aussi de se raccrocher à la vraie vie, et moi je dis que c'est vraiment très important de conserver sa vraie vie, parce qu'il faut pas rester dans cette adrénaline, dans ces moments extraordinaires qui font que c'est vrai que parfois la vie peut paraître un peu fade à côté, mais au contraire, justement moi le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu me donne envie de vivre encore plus au retour, donc j'y vais à fond. Et oui, il y a un petit moment, c'est 48 heures un peu bizarre.
Maintenant, Stéphanie, si vous le voulez bien, j'aimerais vous challenger sur un débat qui secoue la sphère journalistique et qui va en réalité bien au-delà. Le reportage de guerre, une nécessité démocratique, oui, mais pour qui? Alors, on en parlait tout à l'heure, au fil des mois, des années, il est difficile de trouver de nouvelles approches pour parler d'un conflit, le public finit par s'en désintéresser. Alors, plus ou moins rapidement, en fonction de la proximité géographique et culturelle du pays en question. Est-ce qu'à ce moment-là, en tant que reporter de guerre, il n'y a pas une perte de sens? Est-ce que la prise de risque ne devient-elle pas alors inutile, en tout cas ressentie comme inutile?
Non, justement, il faut qu'on continue d'y aller, parce que malheureusement, dans les médias, il y a de moins en moins de moyens, donc de moins en moins de reportages, les commentaires se font depuis Paris, avec des gens qui ne sont pas forcément allés sur le terrain, qui n'ont pas forcément l'expérience. Le poison des réseaux sociaux, parce que moi je pense que c'est un poison, toutes ces fake news qui peuvent circuler, être relayées, sous prétexte d'être relayées par un très grand nombre, c'est pas parce que tout le monde le relaie que cette information est juste. Et tant qu'on pourra, nous, aller sur le terrain et continuer de témoigner, je pense que pour la démocratie, c'est extrêmement précieux, parce qu'autrement, on vit dans un monde parallèle, comme ce qui se passe en Russie actuellement, avec une partie de la population qui pense effectivement qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et tant que le reportage de terrain pourra continuer, même si ça coûte beaucoup d'argent, et qu'on est à une heure où toutes les entreprises font des économies, mais c'est un investissement qui est absolument nécessaire pour la démocratie.
Sinon, c'est une partie de l'histoire qui tombe aux oubliettes, finalement, si les journalistes ne sont pas là pour témoigner, relayer.
Il y a aussi, effectivement... Alors, malheureusement, beaucoup de conflits dont on ne parle plus assez. Je pense à la Syrie, la situation de la population reste dramatique, on en parle moins. Et c'est bien la preuve qu'un conflit dont on ne parle plus est un conflit qui n'existe plus. Et c'est ce que les Ukrainiens craignent aujourd'hui. Que les médias se désintéressent de leur conflit, que ça devienne quelque chose de normal, de banal. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que moi, j'ai envie de continuer à y aller, même si, effectivement, il y a une lassitude, même si on voit très bien que même dans les rédactions, il y a moins d'envie, parce que c'est des sujets qui font moins d'audience, ou qu'on a l'impression qu'on a vu 10 fois la même histoire. Mais voilà, c'est à nous de nous renouveler, c'est à nous de chercher des histoires, de trouver les bonnes personnes à interviewer, pour surtout ne pas laisser tomber ces conflits dans l'oubli.
Et à titre de curiosité, parce que la question me vient et ça me semble assez important, mais est-ce que c'est votre terrain le plus difficile, la guerre en Ukraine ?
Alors la guerre en Ukraine, c'est particulier parce que c'est vraiment une guerre de tranchées. Donc ça a surpris tous les reporters beaucoup plus aguerris que moi. Parce que là, on s'est vraiment retrouvé dans une configuration exceptionnelle. Moi, j'ai couvert la chute de Daesh en Syrie. À ce moment-là, au moment de toute cette période-là, c'est de la guérilla. On est dans la guérilla urbaine, des attentats à la bombe, des voitures piégées. Mais on n'est pas dans des tranchées comme celle-ci. Donc ça, c'est très, très particulier parce qu'effectivement, vous vous retrouvez comme en 14-18. Et c'est très, très dangereux. Et c'est effectivement très dangereux d'être en Ukraine dans la mesure où vous êtes là tranquillement dans un restaurant ou dans un hôtel et un obus peut venir se fracasser sur votre hôtel. Et malheureusement, il peut y avoir beaucoup de victimes. Donc c'est un terrain qui est très particulier, qui est très dangereux. Mais je pense, voyez-vous, là, qu'en ce moment, Haïti est un terrain qui est beaucoup plus dangereux. Parce que Haïti est livré aux gangs, et là, pour le coup, vous ne savez vraiment pas où vous êtes. Et moi, j'ai eu cette sensation-là, vraiment, moi, la sensation de danger, je l'ai vraiment ressentie en Libye, qui est un pays qui est livré aux milices, et où là, vous ne savez pas du tout où vous êtes. Et vous pouvez franchir une rue, vous vous retrouvez dans un quartier qui appartient à une autre milice, qui va vous arrêter parce que vous avez dépassé la limite que vous ne connaissez pas. Et là, pour le coup, c'est très dangereux parce que là, vous risquez vraiment l'enlèvement, vous risquez les balles perdues. Enfin, c'est pour moi beaucoup plus dangereux parce que beaucoup moins lisible.
Alors, de nombreux reporters de guerre n'ont pas votre longévité. Certains renoncent. Et à l'inverse, certains sont complètement addicts à l'adrénaline au terrain, ont du mal à décrocher jusqu'à la fois parfois de trop. Je pense par exemple à Caroline Sins, ancienne reporter de guerre pour France 3, qui a arrêté après avoir subi donc des agressions sexuelles collectives sur la place Tahrir en Égypte pendant le printemps arabe. Euronews avait relayé son témoignage, on l'écoute.
Mon caméraman, nous avons alors été frappés, puis séparés. Très peu de femmes, surtout étrangères, se trouvent sur cette place Tahrir. J'ai été empoignée par plusieurs hommes et j'ai subi une agression sexuelle au milieu de tout le monde, en plein jour. D'autres femmes journalistes ont subi des violences. C'est une façon d'intimider la presse.
Alors, selon vous, y a-t-il vraiment un bon moment pour s'arrêter ? S'arrêter avant le moment de trop, la fois de trop ?
Non, ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel et très intime. Alors, effectivement, il peut y avoir des expériences traumatisantes comme celle qu'a vécue Caroline. Mais ça, c'est vraiment des choix personnels. Il y a un moment où on se dit... bon, peut-être que ça y est, je suis fatiguée. Et je pense que dès l'instant... où on commence à ressentir une certaine fatigue, c'est peut-être là qu'il faut effectivement s'arrêter, parce que c'est là qu'on va être moins vigilant. C'est là qu'on peut effectivement faire la mission de trop. Mais après, souvent, j'en ai plusieurs des collègues qui ont vécu comme ça un choc de reportage et qui reviennent en disant c'est fini, on arrête. Mais ça, c'est vraiment très lié à l'histoire de chacun, à votre vie familiale à ce moment-là, à votre fatigue physique. C'est un ensemble de choses. Ça, c'est, chacun vraiment place son curseur.
Alors les revers parfois ultérieurs donc, de cette profession sont nombreux, vous venez de le dire, stress post-traumatique, dépression, alcoolisme. Comment optimiser les chances d'y échapper ? Est-ce que selon vous, l'équipe avec qui on part est un rempart à tous ces maux qui peuvent se déclencher à l'issue des missions ?
Alors ça oui, pour moi c'est primordial. Mes chefs le savent, moi je ne pars sur ces terrains-là maintenant qu'avec des gens que je connais et avec surtout des amis. Des gens avec qui je vais pouvoir parler franchement, c'est-à-dire que s'il y en a un qui a peur, il le dit. Et moi, je ne forcerai jamais un de mes collègues à aller plus loin sur une route, sur un barrage, s'il ne le souhaite pas. Moi, je pars du principe que dans une équipe, si on est 3, 4, 5, la décision, elle se prend à 5. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une confiance absolue en ceux qui vous entourent et être avec des amis, ça permet de se dire les choses franchement et de pas se dire ah là, si je lui dis que j'ai peur d'y aller, je vais passer pour la casse-pied, je vais passer pour la trouillarde. Non, sur ces terrains-là, on peut pas se permettre ce genre d'atermoiement. Donc l'entourage, il est primordial. Ça m'est arrivé par le passé de partir avec des gens que je ne connaissais pas, ça s'est pas très bien passé forcément. Et maintenant, moi, c'est pour le coup, c'est une des conditions. C'est-à-dire que si les personnes avec qui je souhaite partir ne sont pas libres, je préfère ne pas partir.
Et vous en reparlez après aussi de tous ces moments, parce que ça vous lie fortement, indéniablement.
Oui, mais c'est pour ça qu'on est voilà, on a vécu des choses ensemble qui sont extraordinaires et qui font que forcément, Notre relation est particulière, donc c'est des gens que forcément je vois en dehors du travail. Il y a une vraie relation d'amitié parce qu'on s'est retrouvés dans des situations assez incroyables. Moi, j'ai dormi avec des collègues pendant 3-4 semaines en Syrie, dans une base de soldats kurdes. On dormait par terre sur un matelas, il n'y avait pas d'eau. Enfin bon, dans ces moments-là, vous avez intérêt à bien vous entendre avec vos partenaires parce que ça peut être très long. Mais au contraire, ça nous a...
Après, on en rigole presque.
On en rigole et on se montre nos photos. Et donc, non, c'est important.
Maintenant, pour terminer, Stéphanie, on va passer à la minute cap ou pas cap. Le principe est simple. Je vous pose quelques questions rapides et légères. Vous me répondez uniquement par cap ou pas cap. C'est parti. Stéphanie Pérez, cap ou pas cap de décrocher de l'information pendant plus de 3 jours?
Pas cap.
Cap ou pas cap d'aller voir un ou une psychologue après une mission difficile?
Cap.
Cap ou pas cap d'encourager vos enfants, alors en l'occurrence votre fils, d'exercer votre métier?
Pas cap.
Cap ou pas cap de mettre votre vie en danger pour aider un collègue en difficulté sur le terrain?
Cap.
Cap ou pas cap de ne pas donner de nouvelles à vos proches du tout pendant toute une mission?
Pas cap.
Cap ou pas cap de remplacer Anne-Sophie Lapix au pied levé pour assurer un JT de 20 heures?
Cap.
Cap ou pas cap de dire à votre compagnon qu'il part un peu trop en mission?
Pas cap.
Cap ou pas cap de devenir écrivaine à temps plein?
Cap.
Un dernier conseil peut-être à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire preuve d'audace?
Moi, je crois qu'il faut croire vraiment en soi. Et c'est assez banal ce que je vais dire, mais vraiment, moi, c'est la conclusion que je tire de ces 25 ans là que j'ai passé dans ce métier, c'est que moi, c'était mon rêve de petite fille. Et j'habitais en province et j'ai pas été très bien orientée après le bac. Mais je me suis accrochée et j'ai toujours voulu faire ça et j'y suis arrivée. Et pourtant, j'avais pas de contact, j'avais pas de famille dans le journalisme, pas du tout de contact à Paris, rien, zéro, zéro. Et j'y suis arrivée. Donc oui, mon conseil, c'est que si vraiment on a la foi, si on a la passion, il faut tout faire pour casser la baraque.
Travailler et rien lâcher pour atteindre ses objectifs.
Voilà, rien lâcher. Et croire en soi, surtout, croire en soi.
Merci beaucoup Stéphanie Pérez.
Merci à vous.
Je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui nous écoutent en librairie dès maintenant pour se procurer son premier livre, Le Gardien de Téhéran, qui vient justement de sortir en format poche. Puis, je vous donne rendez-vous en septembre prochain pour découvrir son nouveau roman. Merci également à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était le 3e épisode de Femmes de Défi. Je compte sur vous pour me faire des retours, me suggérer d'autres invités dont vous aimeriez découvrir le parcours. Et bien sûr, je compte sur vous pour en parler au maximum autour de vous et de diffuser cet épisode sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et vous dis à très vite.